Il aime faire du vélo, beaucoup de vélo, 60 km s'il fait beau, quand il pleut, il aime plonger dans Instagram, faire défiler les photos, beaucoup de photos, tout, pour oublier qu'il ferait mieux d'ouvrir tous ces livres qui l'attendent là-haut, là sur l'étagère. Il aime la vaisselle, mais pas n'importe laquelle, il a une fourchette préférée, une tasse préférée, une assiette préférée. En vrai, c'est un obsessionnel, et si les gens ne sont pas prêts à manger quand les œufs sont cuits, ils s'enfoncent dans des abîmes de désespoir et de colère rentrée. Ça n'est pas de moi, c'est de lui. Quand il était petit, il avait un poney qui faisait que des conneries et qu'il appelait Shaitan, sauf qu'il n'était même pas à lui. Ils sortaient juste ensemble et c'est tout. Comment ça, vous n'avez rien compris? Et oh, la poésie. Quand il était petit, il avait une sœur qui avait une tirelire, qui avait des pièces de 2 francs. Ouais, c'était un autre temps. Les pièces, il les volait pour s'acheter des gros sacs de bonbons qu'il se fourrait dans le gosier. En même temps, sans doute que sa culpabilité. Mais l'essentiel n'était pas là. L'essentiel, c'était Bérangère, psychorigide, comme sa mère mortifiée, comme son père, c'était son amoureuse. Enfin, dans sa tête à lui, à elle aussi. Mais elle ne le savait pas. Disons qu'elle ne l'admettait pas. Non, elle ne reconnaissait pas qu'en fait, ils étaient faits l'un pour l'autre. Et ça, en CP, ça fait très mal. Ouais, c'est vrai que ça fait mal.
France Inter. Julia Foyce, pas son genre.
Take a seat, find your place. Let's do the party with the golden ticket. With the golden ticket.
Take a seat, oui, prenez un siège, reposez-vous, laissez-vous embarquer ce soir encore et pour la dernière fois de la saison dans un monde où le féminin et le masculin se mélangent, s'interchangent, où la marge devient le centre et peut-être que le centre sera la marge dans ce monde-là, celui d'après, d'après MeToo, à minima, monde qu'on explore tous les vendredis avec celles et ceux qui nous servent de guide déroulant leur histoire, balisant le chemin. Ce soir, c'est Océan qui nous prend par la main. Bonsoir.
Bonsoir.
Je suis vraiment ravie de vous recevoir.
Merci.
Vous êtes pour le coup à la croisée de tant de chemins qu'on ne pouvait rêver mieux pour cette dernière, auteur, comédienne, militant, oui, vous tenez à ce qu'on vous présente comme ça,
oui.
Parce que le combat, il est essentiel à votre identité. Comprendre cette dimension-là, c'est vous comprendre vous.
Je crois, oui.
Pourquoi? En quoi est-ce qu'il vous raconte, ce combat-là?
Bah, parce que je sais pas très bien pourquoi j'ai toujours eu cette espèce d'obsession de la justice. Après, ça veut pas dire que j'ai été forcément conscient de ce qui était vraiment le plus juste ou que j'ai fait ça bien. Je suis pas en train de dire que j'ai réussi, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a très vite saisi et du coup, ça fait quand même, je dirais, un peu plus de 10 ans que tout ce que je fais, c'est quand même des choses assez militantes, quoi, dans mon travail, et ça me plaît de monter sur scène ou de faire un film pour essayer de changer un petit peu la société.
Vous avez été une figure de la lutte pour la visibilité lesbienne. Aujourd'hui, c'est pour la communauté trans que vous vous engagez. Vous avez commencé, il y a 3 ans, par raconter votre transition à vous. Avec cette deuxième saison d'Océan, en infiltré.e.s, vous élargissez le champ à d'autres que vous. Et vous revoici donc à vélo, pédalant sur ce générique qu'on vient d'entendre. Alors pardon, 60 km, mais pourquoi en fait?
Pourquoi 60 km?
C'est quoi? C'est une sensation de liberté?
Ouais.
C'est le fait de se dépasser soi? C'est quoi?
Moi, je suis très sportive. J'adore faire du sport depuis toujours. Sauf qu'avant, je culpabilisais parce que comme je viens d'un milieu un peu intello, le sport c'était pour les beaufs. Ce qui, on va pas se mentir, ce qui était extrêmement classiste. Bon, voilà dans quoi j'ai grandi. Et enfin, j'exagère un peu, mais il y avait un peu de cette idée-là. Enfin, sauf faire de l'équitation, parce que ça c'est un sport de bourge, donc ça j'avais le droit. Et alors qu'aller à la salle, franchement, voilà. Mais maintenant, j'assume complètement que j'adore aller à la salle, faire du vélo. Je me suis même acheté une gourde chez Decathlon la semaine dernière. Je dis là, j'ai passé un cap avec le petit truc pour l'accrocher sur le vélo. Je suis parti. Bon, je veux aller jusqu'à Meaux et faire 90 km, c'est mon objectif.
Wow. C'est donc en vélo que vous nous entraînez dans les subtilités du genre, un binaire ou pas, cis ou trans, masculin ou féminin parfois. Si subtil d'ailleurs que même vos amis les plus proches se prennent les pieds dans le tapis.
Tu fais très très mec là. C'est un truc de fou.
Comment ça, je fais très très mec?
Bah, je trouve que tu fais de plus en plus mec quoi. Enfin, tu vois, tu fais plus. Montre, je trouve que tu fais plus du tout Gwyn quoi.
Cool. Bah, évidemment, je fais plus du tout Gwyn.
Non, mais
je fais pas mec, je suis un mec, voilà.
Ouais, et maintenant je peux plus te mégenrer.
Mégenrer.
Mégenrer, c'est quand, par exemple, si moi on me dit madame ou qu'on me genre au féminin, okay. Ça sera du mégenrage. Si vous, quand vous rentrez dans une boulangerie et que vous avez les cheveux attachés, on vous dit bonjour monsieur, bon, ça va pas trop, ça va vous faire marrer ou ça va. Vous allez trouver ça un peu bizarre. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que tout le monde a vécu cette expérience d'être mégenré, enfin peut-être à part Stallone ou des gens, mais bon, et encore, on ne sait pas. Et ça prouve bien que ces monsieur, madame, ils n'ont pas beaucoup de sens et qu'on peut on peut se tromper. Après, quand on est une personne trans, c'est tellement important pour nous d'être reconnu dans notre genre réel, en fait, que du coup, c'est une négation de notre identité. Si on nous dit, si moi on me dit elle, voilà, ou pour des femmes trans, je pense que ça peut être extrêmement violent. C'est une façon souvent aussi de leur signifier qu'on les perçoit comme des personnes trans et donc on ne les perçoit pas comme des vraies femmes ou nous comme des vrais hommes. Et du coup, c'est une façon de nous inférioriser, de nous humilier. Donc après, il y a des gens qui le font accidentellement, c'est pas, je sais très bien qu'il y a des gens qui se trompent, soit parce qu'ils connaissaient la personne avant, soit parce qu'ils savent pas. Moi, j'encourage toujours les gens à dire, bon, peut-être arrêter avec les madame, monsieur, en fait. C'est le 20e siècle est fini, peut-être qu'on peut passer à autre chose et juste dire bonjour.
Aborder la transidentité, on le voit, on l'entend, vous écoutez en parler, Océan, c'est apprendre à penser, à parler, même autrement déconstruire pour reconstruire, sans doute plus librement, c'est l'idée de la série. En fait, ce que vous proposez, c'est de regarder le monde et ceux qui l'habitent parfaitement autrement. Vous, on vous regarde aussi. Vous regardez dans ce documentaire. Il y a une séquence dans le miroir. Quand vous regardez, vous cherchez quoi aujourd'hui ?
Disons que dans la saison 2, c'était intéressant parce que cette place du miroir, elle était importante déjà dans la saison 1. Parce que quand on veut changer physiquement, c'est-à-dire qu'on prend des hormones et comme moi, qu'on fait une mastectomie, c'est qu'on a envie de changer justement cette image corporelle et avoir un autre corps et du coup être perçu différemment. Et donc là, c'était important de faire un petit bilan de tiens, qu'est-ce que je vois dans le miroir aujourd'hui. Ce que j'attends, c'est de
Justement, attendez. J'en ai un là de miroir, je vous le tends.
Ok.
Exercice rituel dans cette émission. Regardez-vous, prenez le temps. Qu'est-ce que vous voyez ou qui est-ce que vous voyez sur un détail, une impression générale? Dites-nous ce qui vous passe par la tête là.
Ben, je vois comme tous les matins une barbe d'un jeune homme de 15 ans sur un homme de 44 ans, ce qui fait qu'on ne sait pas très bien quel âge j'ai.
Mais ça, c'est pas mal.
Mais bon, c'est pas mal. Pour l'instant, ça joue en ma faveur.
Vous êtes assez dur avec votre reflet dans la série documentaire et vous dites que c'est complexe. En fait, c'est un héritage. C'est le reste d'une éducation au féminin. Pourquoi ?
Parce que je pense vraiment que, enfin c'est pas d'ailleurs, je suis pas le seul, hein, c'est quand même assez prouvé je crois aujourd'hui, toutes les études féministes pourront vous le prouver, mais c'est vrai que l'injonction à la minceur, à la beauté, enfin une forme de beauté en tout cas extrêmement normative, elle est faite principalement aux femmes, et en fait c'est quelque chose qu'on intériorise très tôt, qui nous est transmis très tôt, et notamment par nos mères aussi, hein. C'est pas parce que moi en tout cas j'avais pas une mère féministe particulièrement, elle l'était dans les faits puisque elle-même était très puissante et que elle faisait et ses enfants et sa carrière, etc. Et donc, mais bon, elle a jamais eu un discours féministe. Donc, dès que je prenais 1,5 kg, elle était très inquiète. Alors que quand finalement je regarde les photos aujourd'hui, je fais, elle aurait pu me dire que ça allait. En fait, il fallait pas que je stresse. Non, là, elle m'envoyait faire des régimes. Bon, après, je vais pas du tout mettre sur le dos de ma mère. C'était l'environnement de la société qui était comme ça et qui est encore, je pense, comme ça.
Mais ce qui est drôle, c'est que, enfin drôle, je sais pas si c'est tout à fait le mot, mais on aurait pu imaginer que vous débarrassiez de ça. Et en fait, non. Et c'est même pire, en fait, vous dites qu'au milieu d'hommes cis, aujourd'hui, vous vous sentez confronté, je vous cite, anormalité.
Ça peut m'arriver.
Il y a une insécurité.
Ça peut m'arriver, ouais.
C'est quoi cette anormalité, cette insécurité? Ça vient d'où, ça?
En fait, c'est... Disons que moi, je me sens pas... Enfin, je pense que la normalité, c'est juste un gros problème général pour tout le monde. C'est-à-dire, quand je dis ça, ça veut pas dire que je me sens moins bien qu'eux. Pas du tout. Mais par contre, je sens à quel point je suis différent d'eux. C'est-à-dire, je sens à quel point je n'ai pas de... Finalement, pas de point commun. Quasiment pas de point commun avec eux.
Mais c'est tant mieux ou...
Et oui, moi, je suis plutôt content de ça. Je trouve ça plutôt mieux d'être un homme trans qu'un homme cis. Aussi parce que, justement, j'ai fait toutes ces expériences qui étaient... pas forcément facile, ce qu'on appelle le sexisme, hein. On peut résumer en un seul mot. Et donc, j'ai grandi en vivant le sexisme. Je le vis encore aujourd'hui, évidemment, à la seconde où je suis perçue comme trans, puisque je suis immédiatement renvoyée, justement, au féminin, au fait que je serais pas un vrai homme, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui est sorti de ma vie. Et quand je suis en présence d'hommes cis, je vois bien même dans leur comportement, leur corporalité aussi, que voilà, qu'on a, enfin en tout cas on a des vies parallèles mais qui n'ont pas vraiment de points communs.
Alors, je disais tout à l'heure que j'étais ravie de vous recevoir, je me réjouissais, parce que je vous aime beaucoup, et tout à coup, là, je suis extrêmement déçue. Que fait ce t-shirt noir sur eux, et tristement noir sur vos épaules, Océan?
Ah oui, j'ai pas mis ma chemise hawaïenne.
Ah ben voilà.
Et ben voilà. J'ai hésité,
je m'attendais à ça.
Franchement, j'ai fait, je l'ai quand même beaucoup, beaucoup porté, il faut que j'arrête.
Parce que c'est ça, c'est ce que vous nous avez dit en préparant cette émission, votre mauvais genre à vous, c'est les chemises hawaïennes.
Ouais. Et d'ailleurs, en ce moment, on rigole beaucoup avec d'autres copains trans parce qu'on se rend compte qu'on est plein à mettre des chemises hawaïennes. Et on a dit que maintenant, c'était ça, le privilège trans. Le privilège trans, c'est de mettre des chemises ringardes de nos darons et de Magnum.
Mais est-ce que ça veut dire que de même qu'Alice Coffin dit qu'il y a de la joie à être lesbienne, il y aurait de la joie, et c'est ce qu'on voit dans les 12 épisodes de votre documentaire, il y aurait de la joie à être trans?
Ah oui, ça c'est certain. Moi, c'est franchement la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est de comprendre que j'étais trans et de le vivre pleinement. C'est une émancipation, c'est une libération. En fait, je pense que questionner tout ce qui nous a enfermés, tout ce qui nous a déterminés malgré nous, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de transitionner. En revanche, je pense que tout le monde devrait questionner le genre, son propre genre, sa façon de performer le genre, et pour pouvoir performer le genre de son choix et à la manière dont il ou elle en a envie. Oui, elle en a envie. Et c'est vrai que les personnes trans n'ont pas le choix que de faire ce travail-là, parce que c'est vital, c'est pas quelque chose qu'on choisit. Mais en réalité, c'est une immense richesse.
Et de porter des chemises hawaïennes. Allez hop,
absolument.
Sac à dos, chemise hawaïenne à vélo, on vous suit Océan jusqu'aux confins du genre, qui peut-être un jour finiront par disparaître. Allez savoir.
Tu feras quoi? Tu feras quoi? Tu feras quoi? Si t'étais moi, t'emmènerais pas plus large que ça. Si t'étais moi, si t'étais moi, tu ferais quoi? Tu ferais quoi? Tu ferais quoi? Si t'étais moi, t'emmènerais pas plus large que ça. Si t'étais moi, si t'étais moi, facile de regarder de haut, remuer les lèvres, mâcher ton stylo, secouer mes rêves comme au rodéo, facile de lâcher des mots. Certains et de railler sans fin mes envies réduites à rien. Mais tu ferais quoi? Tu ferais quoi? Si t'étais moi, t'emmènerais pas plus large que ça.
Tu ferais quoi?
Si t'étais moi,
si t'étais moi,
plus large que ça.
Si t'étais moi,
si t'étais moi,
si t'étais moi.
T'étais moi, t'emmènerais pas plus large que ça. Si t'étais moi.
Si t'étais moi et Clou chante si joliment en fond, ce que l'on voudrait faire ici dans Passons Genre tous les vendredis sur France Inter, imaginer l'autre, concevoir l'autre, se mettre dans ses pas, sa tête, son cœur, élargir ses chakras. C'est grâce à vous si on le fait ce soir, Océan. Auteur, réalisateur, unique en votre genre, vous êtes notre invité.
Passons Genre.
Tout commence pour vous le 19 mars
1977.
Mmh. À Paris, c'était un samedi. J'ai regardé quel jour c'était. Dans quelle ambiance est-ce que vous atterrissez quand vous arrivez sur cette terre? C'est quoi l'ambiance à la maison?
Alors, je crois de ce qu'on m'a raconté que c'est pas ouf. parce qu'en fait déjà mon père vole la vedette à ma mère puisqu'il est en train de faire je crois une péritonite, enfin il est à moitié en train de crever quand ils arrivent à l'hosto, donc tout le monde se jette sur mon père et abandonne ma mère avec ses contractions. Okay. Pas très sympa. Ensuite elle se retrouve à accoucher avec juste un voile, tu vois, entre elle et la femme d'à côté, et avec qu'elle entend accoucher avant elle, donc elle vit complètement son accouchement émotionnellement. Et quand c'est son tour, elle dit bah non, ça y est, j'ai déjà tout vécu. Donc voilà, le tout début est pas ouf. Et ensuite du coup elle se retrouve à la maison avec ma sœur de 2 ans et qui, je pense, fait caca par terre parce qu'elle est tout contente que je sois là et qui hurle, et mon père qui, il faut aussi voilà, qui est enfin qui est très malade en fait à ce moment-là. Et du coup je pense que c'est pas facile pour ma mère.
On est dit,
elle avait 20 ans quand on y pense. Elle avait 20 ans et avec voilà une petite qui hurle, un mec
elle
qui tient pas debout,
jeune, ouais.
et moi qui, je pense, était déjà très gourmand, donc il pouvait manger tout le temps.
On est dans quel milieu social, dans quelle ambiance générale?
À ma naissance, on est dans une tour des Olympiades dans le 13e,
ouais.
Dans un petit appart. Voilà, ils sont tous les deux issus de milieux plutôt bourgeois, mais bon, à ce moment-là, ils sont pas franchement blindax.
Ouais.
et puis voilà, c'est un peu genre l'union où, parce que ma mère était enceinte, les parents ont accepté qu'ils se marient, quoi, parce qu'ils avaient 15 ans d'écart, mes parents.
Ouais.
Mon père était un ancien prêtre défroqué.
Ça, c'est complètement fou quand même. Mais il s'est défroqué pas pour votre mère, c'était défroqué avant.
Il en avait déjà marre. Il était un peu en dépression, à mon avis, parce qu'il était dans un ordre hyper dur. En plus, enfin, sa vie était pas hyper cool. Et du coup, quand il a vu ma mère débarquer, je crois que c'était, ouais, ça a dû influencer, ouais, un peu. Enfin, bon, ça a été un déclencheur, j'imagine. Donc voilà, donc c'est plutôt un milieu, on disait gauche caviar à l'époque, mais bon, voilà, quand moi je suis petit, c'est là qu'on s'installe ensuite rue Réaumur.
Donc en plein centre de Paris.
En plein centre de Paris, mais dans un quartier où, voilà, nous à l'école primaire, où on est les seuls avec ma sœur, on va dire blancs, en tout cas français, françaises de 3 générations, quoi. C'est que des personnes issues d'immigration qui sont là, donc très très mélangées. Et je pense que ça a joué aussi du coup dans mon militantisme après, de voir que voilà, les privilèges faisaient des histoires différentes, même pour des gens qui sont dans la même école.
Quel genre d'enfant vous êtes, vous?
Sympa, et je fais des blagues, je commence assez tôt à faire des blagues et être de bonne humeur et à être, oui, dans une très grande vitalité, je crois. Après aussi avec assez autoritaire, je pense. Enfin, je pense pas que j'ai vraiment changé, en fait. Hein.
Et est-ce que vous avez à ce moment-là ce qu'on entend dans beaucoup de parcours trans? Est-ce que vous avez ce qu'on appelle une dysphorie de genre? Est-ce que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est pas en adéquation, qu'il y a un truc qui marche pas, qu'il y a un truc qui...
Pas tellement, en tout cas pas au point que vraiment que je me questionne.
Ouais.
En fait, je ne questionne pas, pour le coup, quand je suis enfant et jusqu'à très tard. C'est pour ça que j'ai fait ma transition aussi tard. C'est parce que pendant longtemps, je pensais que c'était quelque chose d'immuable, en fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai plus envie, je pense, d'être un garçon, mais pas au point de le dire, pas au point de le formuler. Et puis, j'aime bien les trucs de garçon, mais je suis une fille, donc c'est pas quelque chose que je questionne vraiment. Puis en plus, les années 80, on était tous habillés avec des soupules en viscose qui puent et des coupes au bol. On était assez unisexe, en fait, plus qu'aujourd'hui. Quand on regarde les photos des années 80, on sait pas trop qui est un garçon, qui est une fille. Du coup, c'était pas trop pénible, en fait.
Vous êtes en amour avec Bérangère, donc, à l'époque, et qui on souhaite depuis d'avoir épousé un contrôleur fiscal. C'est avec vous, elle aurait quand même beaucoup plus rigolé. Mais bref, vous l'aimez, vous volez dans la tirelire de votre sœur avec votre poney chétane, vous partez en vadrouille, et tous les mercredis chez vous, c'est très très rock'n'roll. On est sur une sorte de basique éducatif là, hein, avec le Club Dorothée. Donc ça veut dire que globalement, votre éducation, elle est assez classique, assez...
Ah oui, oui, on a le droit de regarder la télé, on regardait...
Oui, mais un prêtre défroqué, c'est quand même rock'n'roll, ça, pour le coup.
Ah oui. Oui, mais bon, justement, du coup, il nous a donné aucune éducation religieuse parce qu'il était dégoûté par l'église, enfin, toute l'institution, ce qui n'empêche pas qu'il y avait une spiritualité très forte et qu'il nous a transmis aussi cette spiritualité-là, mais justement hors du cadre.
Mm-hmm. Mais du coup, est-ce que les discussions sont libres sur des terrains comme la sexualité, sur des terrains comme la politique, par exemple? Est-ce qu'on parle de quoi?
Ouais, on parle de politique. On nous explique très tôt qu'il faut être de gauche, sinon c'est très mal. Donc, du coup, à chaque fois qu'il y a une élection, voilà, on dit Mitterrand président. Bon, maintenant, quand j'y repense, je dis ouais, parce qu'on aurait pu faire mieux quand même.
Et sur la sexualité.
Et sur la sexualité, oui. Alors, mais là, c'est carrément même extrême. C'est-à-dire que ma mère veut tout nous expliquer très vite, très tôt, au point que je me souviens très bien à l'âge de, je sais pas, je devais avoir 13 ans. Et j'ai une copine qui était plus vieille que moi, et puis qui me dit qu'elle a couché avec un garçon. Et on était au téléphone, et moi, je prends vraiment mon air le plus vraiment cool, quelqu'un qui est au courant de tout ce que c'est que la sexualité, etc. Et elle me dit non, mais j'ai pas voulu faire l'amour avec lui parce que j'avais mes règles. Et je lui dis bah n'empêche que tu vas bien devoir y passer un jour ou l'autre. Et elle me dit quoi? Bah, je dis bah oui, parce que pour avoir des enfants il faut avoir ses règles. Donc elle me dit mais non, mais c'est pas du tout ça en fait, c'est que oui il faut avoir ses règles, mais pas le moment, le jour forcément. Et donc voilà, ma mère tellement, je pense en fait elle nous a donné trop d'infos trop tôt, donc je savais plein de trucs mais j'avais pas forcément mis dans le bon ordre.
Et sur la question du genre, sur le masculin, sur le féminin, qu'est-ce qu'on vous disait? Ou j'imagine qu'à l'époque on n'avait pas les réflexions qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez sous vos yeux, votre père, votre mère, comment ils se répartissaient les places, les rôles, les espaces?
Justement, ce qui était pas mal, c'est que je pense que c'était plutôt ma mère qui, comme on dirait, portait la culotte. C'est-à-dire que mon père travaillait beaucoup, mais c'est elle qui assurait. C'est elle qui assurait, c'est elle qui gérait tout, en fait, tout. Lui, c'était un peu un rêveur, il avait plein de projets super et tout, mais il était dans son monde, il était, voilà, il était un peu, ouais, il était là, on avait une super relation avec lui, mais qui était une relation plus poétique, on va dire, voilà. Donc, du coup, moi, j'avais quand même l'image enfin, ma mère, c'est une femme vraiment très puissante, très, voilà, très structurée. À 7h01, on passait à table. À 7h30, on devait être dans nos chambres. Enfin, c'est un peu, voilà. Bon, après, on foutait le bordel quand même. Mais je veux dire, il y avait, en tout cas, la tentative voilà, d'une forme d'autorité, de structure. Ouais. Et du coup, je dirais que ce qu'on pourrait qualifier de féminin, entre guillemets, était plutôt côté paternel. Parce que mon père était quelqu'un qui était qui était très doux, très à l'écoute, qui avait gardé quand même ce truc peut-être de prêtre, de beaucoup, beaucoup être dans l'accueil. Dans l'accueil, dans la douceur, et du coup, l'autorité, en fait, la force, en fait, pour moi, c'était un truc de meuf. Et d'ailleurs, je le pense, enfin, je pense que la force, c'est un truc de meuf. Les mecs, franchement, enfin, les mecs, cis, je les trouve complètement, enfin, bon. Sans intérêt, quoi. Pas très fort, en tout cas. Vous avez des petites chuchotes, quand même, je trouve.
Ado, vous avez des posters de Janis Joplin et de Tony Hawk, le skater, dans votre chambre, dans les enceintes, ce que le meilleur des années 80 à 90 a pu produire avec une petite prédilection pour l'homme qui, un jour, c'est ça, de porter des shorties en lycra. Il a quelque chose de très cuir et très queer, hein, George Michael, mais à l'époque...
Non, mais c'est là que j'aurais dû comprendre que j'étais pédé. C'est en fait maintenant... Mais en fait, j'étais un enfant pédé, mais je croyais que j'étais une fille qui aimait les filles. Non, j'avais rien compris à moi, franchement, j'étais noyé.
Mais justement, quand vos premiers désirs surgissent à l'adolescence, ils vont vers qui?
Ah, ils vont vers les filles, tout de suite. Ouais, je suis très, 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 très gouine, très tôt.
Mais vous comprenez ce qui se passe?
Je crois que je comprends et que ça me fait très peur.
Ouais.
Ça me fait peur longtemps. Je mets beaucoup de temps à assumer mon homosexualité. Pareil, où là, mon environnement, finalement, a beau être de gauche et intello, on peut dire ce qu'on veut.
Ah oui.
Enfin, franchement, l'homophobie intériorisée, elle était ouf, quoi. C'est-à-dire que vraiment, j'avais intériorisé que c'était beaucoup moins bien. Et en même temps, j'avais raison d'un point de vue matériel d'être lesbienne. C'était quand même un problème psychologique, quoi. Donc, la transidentité, n'en parlons pas.
Donc, ça veut dire que vous ne l'avez pas vécu tout de suite? C'est-à-dire que vous n'êtes pas passé tout de suite à l'acte avec les filles.
Non, non, j'étais que dans le fantasme. Mais c'est ça peut-être qui m'a rendu artiste. Hein. C'est du coup, j'écrivais des chansons, j'écrivais des poèmes. Ouais. Ça m'a immédiatement mis dans la cristallisation, quoi, on va dire. Donc, le besoin d'écrire et d'être créatif pour compenser le fait que j'avais pas d'orgasme, peut-être. Que j'avais pas de copine, en tout cas. Enfin, et donc, je m'arrangeais pour tomber amoureuse à l'époque de filles inaccessibles. Pour être sûr que ça n'arrive pas.
C'est plus pratique, ouais.
C'est plus pratique.
Et comment le cap, et quand est-ce qu'il se fait? Quand est-ce que vous franchissez le pas?
Assez tardivement, quand même. Enfin, vers 15 ans, je suis très, 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 très amoureux d'une fille qui, je pense, menée par le bout du nez. Mais après, ça...
Bérengère.
Ça a duré, ouais. J'en ai eu pas mal. Mais bon, la première fois vraiment que je couche avec une fille, c'est j'ai 19 ans, quoi. Donc, c'est un peu tard, je trouve, quand même. Enfin, c'est un peu tard, ou pas, je sais pas. C'est l'âge normal, en fait, peut-être. Mais alors que je commence à coucher avec des garçons à 15 ans, quoi. Parce que je pense que déjà, j'ai l'impression que c'est... Enfin, il y a vraiment, c'est intéressant de voir à quel point aussi j'avais intériorisé le fait que être encore vierge à 15 ans, c'est vraiment le truc de naze, quoi. C'est vraiment nul. Et maintenant, quand j'y repense, je vois les enfants de 15 ans, je suis là, oh mon Dieu.
Et le fait de coucher avec une fille, vous le vivez comment? Comme une libération ou au contraire une espèce de truc très angoissant qui vous tombe
dessus?
Ouais,
c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que je vois bien que je suis à l'endroit où je dois être, mais c'est flippant, quoi. Donc je mets et après, la relation juste après où je suis vraiment amoureux, et là, je suis heureux parce que je vis une histoire d'amour. Voilà, réciproque et tout. Et donc là, ça devient vraiment une libération. C'est l'époque du pulp. Je vais au pulp tous les week-ends.
Le pulp qui est une boîte de nuit parisienne lesbienne.
Mythique. Et voilà, c'est la grande époque. Jennifer Cardini, Chloé, Sextoy, tout ça, toutes ces DJ extraordinaires qui finalement, elles étaient pour le coup très, très en avance, je trouve, sur leur temps, quoi.
Alors à ce moment-là, vous faites des études de lettres à Paris et puis vous descendez à Marseille, vous chantez, vous devenez Ocean. Trois albums plus tard, vous restez sur scène, mais vous raccrochez la guitare. On est en mars 2011. Au théâtre du gymnase, vous jouez votre seule en scène, la lesbienne invisible.
Mais c'est génial! Faut absolument que je te présente Françoise et Marie-Jo. Elles sont lesbiennes, elles aussi.
Je suis sûre que vous allez vous entendre.
Non, mais excusez-moi, mais juste un tout petit truc. Vous imaginez si nous, les lesbiennes, à chaque fois qu'on rencontrait des hétéros... Mais c'est génial! Faut absolument que je te présente François et Agnès. Ils sont hétéros eux aussi. Je suis sûre que vous allez vous entendre.
Ah, ces aigus,
tellement fier.
Ces beaux aigus.
J'allais vous demander, quand vous vous réentendez, vous vous dites quoi?
C'est rigolo, j'aime bien, je trouve ça rigolo. Je suis toujours surpris par ma voix, mais même il y a 3 ans, hein, quand je regarde la saison 1, le début, là, je suis là, mon Dieu, c'était moi il n'y a pas si longtemps.
Pour qu'on se replace quand même dans le contexte de l'époque, on est bien avant MeToo, on est même avant le mariage pour tous, c'est-à-dire si le corset était encore plus, encore plus serré. La lesbienne invisible, c'est un ovni quand même, à ce moment-là.
Mais c'est chouette parce qu'il y a il n'y a pas vraiment de spectacle sur les lesbiennes par des lesbiennes à ce moment-là. Du coup, il y a un truc très fort qui se passe et les salles sont pleines pendant 5 ans, en fait, ça ne désemplit pas. Et d'ailleurs, là, le spectacle, je l'ai remis en scène avec la comédienne Marine Baousson. Oui. Elle va reprendre au Théâtre des Béliers à l'automne. Donc ce spectacle, il est encore... Après, on a réécrit, du coup, les trucs sur d'abord le mariage pour tous. Après, la PMA, elle m'a dit « Ah, il faut que tu réécrives la fin, parce que là, la PMA, du coup... » Ah oui, t'as raison. Donc tant mieux, mais le spectacle, il n'y a pas tellement vieilli, en réalité.
Vous avez largement contribué à changer le regard.
J'espère que j'ai contribué, j'ai fait ce que j'ai pu en tout cas.
Mais ça, c'était avant cette seconde date de naissance, le 5 janvier 2018, date de votre première injection de testostérone, première étape de votre transition. À la technique ce soir, Michel Bézikian, à la réalisation, Marie-Annick Rimbaud, Camille Pouc-Jalaguier, attachée de production dans les enceintes, François Andy Atlas Monte.
Boire tout le train, il veut dériver. Puis faire l'amour, rire après coup, se dire qu'après tout, ce qu'elle m'avait fait, ça je ne risquais pas, lui courir après tout. Derrière la porte où elle se cache, déjà s'en trouverait. Derrière la farce, les faibles cas. Leurs absurdités, elle qui disait bonsoir mon amour, texte désormais. Coucou, 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 comment vas-tu? Comme si elle m'avait jamais venu, comme si j'étais un inconnu. Pourquoi elle écrit ce genre de truc, comme si elle m'avait jamais vu nu. Encore un été j'attends. Le soir venu, dire oui à tout. Demain, se sentir bien moins impliqué. Je suis sans nouvelles, je suis sous un arbre, je réponds ah ouais. L'âme ça s'est cassé, c'est l'ellipse éclipsée qu'ai-je imaginé. Celle qui disait bonsoir mon amour, koala en chef, faisons un tour, texte désormais. Pourquoi elle demande puisque je peux plus lâcher ma dose dans son. Coucou, 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 comment vas-tu? Comme si j'étais un inconnu, comme si elle m'avait jamais vu nu. Je jetterai sa brosse à dents.
François and the Atlas Mountain, coucou, c'est votre choix musical, Océan, mais qu'est-ce qui vous plaît dans cette chanson?
Bah, justement, voilà, c'est vrai que je dis beaucoup de mal des hommes cis, bon, aussi, parce que ça m'amuse, mais il y en a, mais c'est vrai que parfois il y en a que j'aime bien en cachette. Et lui, je l'aime bien parce que justement, il a une espèce de sensibilité, de douceur, voilà. En fait, moi, ma grande lutte, on va dire, s'il y a une chose pour laquelle je milite vraiment, je dirais d'un point de vue personnel et de ce que j'encourage les gens à faire, c'est de sortir des dominations, sortir de la domination, sortir de la rivalité. Alors c'est très un message vraiment, c'est les évangiles. Hein,
c'est pour le et coup, c'est valable pour c'est toutes et tous. Quoi,
je pense. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter, bien au contraire, c'est-à-dire lutter contre les inégalités, lutter contre les injustices. Mais après, c'est vrai que quand j'entends cette chanson, ben j'entends, je crois, après peut-être que c'est une illusion, mais quelqu'un qui n'est pas dans la domination, et qui n'est pas dans la rivalité, et qui est...
Et puis même dans son look, dans son esthétique, voilà. Il a quelque chose, il a une masculinité qui est un peu... En fait, il me fait penser à Kurt Cobain vivant.
Ah ouais,
depuis les cheveux longs.
Ouais.
Non ?
Je sais pas.
Bon, et en même temps, Kurt Cobain chantait Rape Me, donc je fais complètement fausse route.
Mais lui, je l'aime bien.
Alors, au-delà de François-Marie, le chanteur de François and the Atlas Mountain, comment est-ce que vous aimez aujourd'hui? Est-ce que vous aimez comment, au fond, vous vivez votre rapport à l'autre et au monde d'aujourd'hui? Vous nous le direz. Océan, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes sur France Inter.
France Inter, passons genre.
Aujourd'hui, nous sommes le 17 mai 2018, journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et j'ai choisi cette date symbolique pour vous annoncer une nouvelle très importante pour nous. La plupart d'entre vous m'ont connue grâce à mon spectacle La Lesbienne Invisible, que j'ai créé il y a 10 ans sous le nom d'Océane Rosemary. Il y a 2 ans, après avoir compris que le masculin en moi avait toujours été contrôlé, écrasé, contenu, j'ai décidé que ça suffisait. J'ai donc pris la décision de changer de genre, de m'affirmer tel que je suis, un homme trans. Je précise homme trans et pas simplement homme, et bien sûr je ne parle que pour moi-même, parce que si je ne me suis jamais identifiée aux femmes, je ne m'identifie pas non plus aux hommes cisgenres, qui ont toujours appréhendé le monde depuis leur corps, leur vie sociale, leur pénis de naissance et les privilèges que cela implique.
Alors vous vous souvenez évidemment de ce jour-là, Océan, jour où vous avez annoncé devant les caméras de Comitit que vous aviez entamé votre transition. La vidéo, elle est devenue virale, elle a tourné. Est-ce que vous, elle vous a tourné la tête? Je veux dire, ça doit être très très vertigineux, non?
J'avais peur, surtout. Ouais. J'avais peur des réactions. En même temps, j'avais absolument pas le choix. C'est marrant parce que il y a des gens qui disent, ah ouais, maintenant ça devient un truc de marketing et tout. Mais en fait, moi, j'étais comédienne à l'époque. J'étais quand même, j'étais pas du tout une star, mais j'étais un petit peu connue. Je ne pouvais pas ne pas faire ce coming out. Quand j'ai pris la décision de commencer la testo, je me dis, bon, quand est-ce que je vais faire mon coming out? Enfin, j'ai été obligée de le réfléchir, en fait, de le penser.
Oui, mais vous l'avez pensé, et du coup, vous l'avez pensé pour le 17 mai, qui est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Donc, ça veut dire que, tout de suite, vous en faites un acte politique.
Bah oui, parce que ça l'est, de toute façon, ça l'est.
Pourquoi ?
Dire qu'on est trans, c'est aussi, c'est une façon, c'est s'exposer, c'est s'exposer aussi à tous les risques, enfin aux dangers, s'exposer à la transphobie évidemment. Donc moi, j'avais pas vraiment le choix que de prendre ce risque, mais en même temps, j'étais content de le faire justement pour accueillir un trans visible de plus, parce qu'il y en avait pas beaucoup, une personne trans visible de plus. Donc je trouvais que c'était important, et puis que oui, l'intime est politique, hein, comme on dit.
En tout cas, c'est ce dont on se rend de plus en plus compte, ça, c'est très clair. À la même époque, vous aviez déjà commencé à tourner votre documentaire.
Oui.
Je vous pose la même question, mais pourquoi le faire tout de suite? Parce qu'on aurait pu se dire que vous voudriez vivre ça pour vous.
Je trouvais que quand moi j'ai pris cette décision de commencer les hormones, hein, je précise, pas d'être trans, parce que ça c'est pas quelque chose vraiment qu'on choisit, je pense. Mais quand j'ai pris cette décision de commencer les hormones, j'ai cherché des ressources et j'en ai vu beaucoup sur internet, par des youtubeurs, youtubeuses. Mais en termes de documentaire, enfin tout ce que j'ai trouvé moi, je pense qu'il y a plein d'autres choses mais auxquelles j'ai pas eu accès, et parce qu'elles étaient beaucoup plus infra, beaucoup plus queer, beaucoup plus inaccessibles en fait, tout simplement. Et les films que j'ai vus français, surtout, c'était toujours des films faits par des personnes cisgenres. Et je sentais bien qu'il y avait aussi un problème de regard. Mmh. On nous regardait comme des petits animaux qui vivent dans une forêt, qu'il faut être gentil avec eux, parce que quand même c'est dur, ils souffrent. Et je voyais bien que moi, c'était pas ça que j'étais en train de vivre. Donc, très vite, je me suis dit, c'est important que je fasse ce film, et en tant que concerné, et que je montre ce que c'est que commencer une transition, et de faire un film qui soit accessible, peut-être un peu plus largement que juste sur une chaîne YouTube.
Et pour autant, dans la communauté trans, certains vous le reprochez. Vous en cachez pas dans la saison 2 de ce documentaire. Il y a une séquence où effectivement on dit, mais en fait, en gros, il y en avait que pour toi, du coup.
Oui, tout à fait. Je trouvais ça important de garder ça, de montrer que dans la commu, c'est pas du tout simple. Moi, il y a beaucoup de gens qui...
Donc on dit ma mec et on dit commu, quoi.
Ouais, on dit ma mec et on dit commu. Et même si c'est une commu un peu fictive, parce qu'elle est pas homogène et que, évidemment, Mais moi, il y a beaucoup de gens qui me détestent. Moi, je me fais plus défoncer par les gens de ma commu que par... Enfin, non, après, je dis ça, je vais pas sur Twitter lire tous les commentaires transphobes ou voilà. Mais quand
Pourquoi
même, c'est là où... Parce que souvent, les gens ont... Comme j'ai été très médiatisé, ce qui, encore une fois, n'est pas vraiment de ma faute, enfin, qui était logique dans mon parcours, puisque j'étais déjà comédien, public, etc., réalisateur. Du coup, ça a en effet mis l'attention sur un parcours d'une personne bourgeoise, blanche, avec une transition quand même binaire, c'est-à-dire, même si moi, dans mon discours, j'ai pas du tout un discours binaire, j'ai une expression de genre qui est binaire. En plus, je m'habille comme un mec un peu boring, comme un raisin, comme
sauf
dit Sophie Marie dans... Bon, voilà. Donc, c'est vrai que pour des personnes, par exemple, non-binaires, racisées, avec des parcours aussi parfois plus difficiles, etc., c'était violent. C'était violent et je l'entends. Et je l'entends. Mmh. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je le montre aussi dans la saison 2. Parce que moi, en fait, j'étais d'accord avec eux. Je trouve pas que c'est OK de montrer que des parcours, avec, comme ça, des expressions de genre qui viennent rassurer, en fait, les personnes cisgenres. Et je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de films, tout simplement, et avec plus de parcours. Ça veut pas dire que mon film avait pas sa place, mais ça serait bien qu'il y en ait beaucoup plus pour montrer la diversité des parcours, et c'est pour ça aussi que j'ai fait la saison 2.
Et c'est ce que montre votre film, cette saison 2. Donc si vous pouvez le faire, ce documentaire, c'est que vous êtes, vous, infiltré, passé de l'autre côté, du côté d'une catégorie sociale dominante, vous êtes entre mecs.
Quand je suis dans ces situations, genre là, à la salle de sport, où les mecs, ils parlent entre eux, ils parlent de meufs et tout, moi, j'ai vraiment l'impression d'être en infiltré, quoi. Mmh. Tu vois, genre... Parce que je les entends, je suis là genre wow, j'hallucine en fait, et de comment même ils me parlent à moi, parce qu'ils me perçoivent comme homme.
Dans ton docu, au début, tu dis je suis fatiguée d'être une femme, et finalement tu fais ce choix de devenir trans, et en fait finalement tu tombes dans une autre fatigue en fait.
Oui, mais ça, de toute façon, cette fatigue-là du sexisme, je l'ai où que je sois, en fait. Enfin, tu vois, dans le sens où moi, j'ai pas changé d'opinion, j'ai pas changé, tu vois, j'ai pas changé tout court. Donc, c'est sûr que je la vois encore plus, peut-être, enfin, encore plus. Je la vois différemment, je la vois d'un autre. C'est comme si t'allumes un autre spot, tu vois, t'es sur scène, t'as plein de lumières éclairées.
Ouais.
Quand t'es une meuf, t'as toutes ces lumières, et d'un coup, bouf, il y a un autre projecteur qui s'allume parce que d'un coup, tu changes de place, tu fais, ah, les mecs dans la rue, tu vois.
Une espèce de complicité masculine, de ouf.
Ils sont hyper sympas avec.
Grave, le boys club, quoi.
Ouais. Le boys club.
Ça ressemble à quoi un boys club ?
Bon, après, c'est vrai que c'est pas un club que je fréquente beaucoup ou longtemps, puisque général, quand je commence à parler avec les gens, justement, je dis que je suis trans, donc ça me remet à une autre
place. Pourquoi vous le dites ?
En fait, j'ai pas toujours envie de le dire, selon l'ambiance. Après, ouais. C'est vrai que souvent les gens disent « tu fais quoi dans la vie ?» quoi. C'est une des premières questions que les gens se posent quand ils se connaissent pas. Et moi, j'ai pas envie forcément de mentir sur ce que je fais comme travail, donc assez vite, le truc est révélé. Ouais. Après, si vraiment je me sens pas en sécurité, je le dis pas, je reste extrêmement évasif, et je dis « je suis réal », sur la communauté queer, et les gens ils savent pas ce que c'est, donc ils osent pas poser plus de questions.
C'est un commerce de vente de cuir.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, malgré tout, c'est vrai que c'est ça fait bizarre, en effet, de se retrouver dans des situations comme ça où on est dans la rue, puis le mec qui nous a emmerdé toute notre vie, le mec qui traîne et qui normalement vient nous prendre la tête et nous draguer, ben là, il est sympa, quoi.
Il peut y avoir une forme de culpabilité, de se dire zut, je suis passé de l'autre côté et.
Ben en fait, moi, je pense que je suis pas du tout passé de l'autre côté. Ça, je le rappelle vraiment à chaque fois. Oui, il y a une culpabilité et d'ailleurs les femmes qui se disent féministes mais qui sont pas du tout déconstruites sur les questions de transidentité doivent vraiment faire un gros travail là-dessus, parce que moi on m'a beaucoup dit ouais mais maintenant t'es passé de côté, t'es plus légitime à parler des problèmes de sexisme, tu peux plus dire que t'es féministe, et ça vraiment j'ai eu la phase culpa comme beaucoup de mecs trans, et maintenant plus du tout, et je réaffirme vraiment très fort que non, nous faisons partie du même groupe que Juliette Drouard, qui sort son livre en septembre qui s'appelle Sortir de l'hétérosexualité, qui est absolument passionnant, qui est vraiment un penseur de notre temps, appelle le groupe des personnes sexisées, à l'instar des personnes racisées, c'est-à-dire des personnes qui vivent le sexisme. Et en fait, les personnes qui vivent le sexisme, ça peut être des hommes qu'on dit efféminés, ça peut être les PD vivent le sexisme, un PD qui se fait péter la gueule dans la rue vit le sexisme. Moi, je vis le sexisme parce qu'à la seconde où je suis perçu comme trans, ben je risque autant qu'avant de me faire violer, je suis sexualisé d'une manière déplacée, etc. Donc, et je vis des discriminations matérielles du fait de ma transidentité. Donc non, je ne suis pas passé de l'autre côté, les hommes trans ne passent pas de l'autre côté.
Vous étiez fatigué d'être une femme, est-ce qu'il vous arrive d'être fatigué d'être trans ?
Oui, il m'arrive d'être fatigué d'être trans plutôt quand je suis tout le temps renvoyé à ça, c'est-à-dire quand je me retrouve en effet dans des situations où je voudrais peut-être penser à autre chose ou parler d'autre chose et que les gens me parlent beaucoup de ça.
En même temps,
parce que je le fais déjà dans mon travail toute la journée.
D'accord.
Donc tant que c'est dans mon travail, c'est cool parce que c'est mon travail et que voilà, j'en vis, donc c'est normal que je fasse ce taf et je l'ai choisi en plus, donc j'en suis très content. Après, c'est vrai que parfois c'est fatigant aussi parce qu'on se sent, je me sens plus incompris qu'avant en fait. Je pense quand même que quand j'étais une meuf lesbienne, ben je me sentais pas toujours comprise à l'époque quand j'étais avec des personnes hétéros, mais c'était quand même plus simple, je trouve, que vraiment. Et en ce sens, je sens que j'ai perdu mon privilège cis. C'est aussi pour ça que je dis que j'ai pas gagné en privilège. Ouais. J'ai gagné en confort si je rentre à 3h du mat dans une ruelle sombre, parce que le confort d'être perçu comme un homme cis, mais c'est pas un privilège, c'est pas acquis. Un privilège, c'est acquis. Être blanc, c'est un privilège, c'est acquis. Mais être trans, c'est pas du tout acquis. À seconde, moi, où je me retrouve voilà devant un médecin ou quoi, je suis dans des insécurités de ouf que j'avais pas avant. Par exemple.
Parce que vous avez peur qu'ils vous considèrent comme...
Parce que, vous savez, la transidentité a été sortie des maladies en 2019, c'est Roselyne Bachelot. Donc, la psychiatrisation des personnes trans, elle est encore hyper forte. Et d'ailleurs, si vous regardez n'importe quel commentaire sous des vidéos de personnes trans, vous allez toujours voir, mais c'est ça. Et moi, je suis une chaise, et moi, je suis un pingouin. Enfin, les gens ne comprennent pas ça, ils ne comprennent pas que c'est eux le problème.
C'est d'une violence.
De croire que hommes et femmes, ce serait vraiment quelque chose d'inné, naturel et d'immuable, quoi. Enfin,
ce que vous disiez il y a deux minutes, c'est que ce qui change, c'est le rapport à l'espace public. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent.
Oui, oui, tout à fait. Bah après, c'est des situations qui parfois, en plus, sont un peu perturbantes, parce que si je suis au resto avec ma copine, les serveurs vont avoir tendance à m'amener l'addition à moi. Et en fait, du coup, j'aime bien que ce soit elle qui paye. ça me fait marrer. Bon, des trucs comme ça qui sont un peu foufou, quoi.
On vous entend rire dans ce documentaire beaucoup. On vous voit aussi pleurer au séant. On sent parfois il y a une espèce de lassitude. Il y a des doutes. Il y a de la fatigue en fait, qui est de la fatigue militante, puis de la fatigue de vie aussi, parce que parce qu'il y a tous des moments où on en a marre. Et vous avez cette séquence, cet échange avec une jeune personne trans, j'ai oublié son nom, on est à Marseille je crois. Il vous dit, en fait, la commu, donc c'est pas les bisounours, c'est-à-dire qu'il y a eu une violence aussi à l'intérieur de la communauté.
Oui, qui s'explique parce que comme c'est beaucoup de personnes qui vivent des oppressions, justement, des oppressions systémiques, des discriminations, tout le monde est très à vif, souvent des personnes aussi qui ont vécu des violences fortes, et donc, voilà, du coup, c'est vrai qu'il y a une sensibilité qui peut être un peu exacerbée, puis aussi une attente d'un comportement qui serait de l'ordre de la pureté militante, qui est une espèce de fiction totale.
C'est-à-dire un dogme?
Oui, où il faut pas déroger, ça, on peut le dire, ça, on peut pas le dire, ça, il faut le faire, ça, il faut pas le faire. Et bon, après, il y a des gens plus souples, mais il y a des gens qui sont très rigides.
Ce qui est désespérant, c'est que ça veut dire que l'humain, quoi qu'il arrive, a besoin de cadres et de normes, parce que du coup, une norme chasse l'autre, et ça, on n'en sort pas.
C'est quand même, je trouve, des normes qui sont beaucoup plus intéressantes, parce que c'est justement sur les questions d'inclusion, de respect, de pas avoir des comportements racistes, classistes, grossophobes, etc. Donc c'est quand même une communauté qui cherche à être quand même lutte pour l'égalité, mais justement, mais après c'est ce que dit Haroun dans l'épisode 3, c'est que les dynamiques de pouvoir elles sont partout, donc en effet moi dans la commu entre guillemets en tant que blanc bourgeois, quelque part il y a une grande partie de la commu qui considère que je n'appartiens pas à cette commu puisque j'appartiens d'abord à ma classe.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'à un moment donné ça peut enfermer? C'est parfois ce qui affleure dans cette deuxième saison qu'on ressentait pas forcément dans la première, en tout cas pas aussi fort.
Disons que il y a en fait aussi, je pense, un travail de remise en question qui doit être fait, et la possibilité de pas être trop dur, quoi, qui devrait être plus présente. Je pense que la cancel culture, en fait, elle est très bien, en effet, pour
cancel culture.
Donc, MeToo, en gros, c'est-à-dire dénoncer les gens qui sont au pouvoir et dénoncer un système de domination et les violences, y compris sexuelles, c'est extrêmement important. Après, au sein d'une commune où tout le monde a vécu ces violences-là et où on s'en prend tous plein la gueule, enfin, de tomber sur quelqu'un qui aurait mal dit quelque chose ou aurait une maladresse, bon, c'est parfois un peu excessif. Après, c'est important. Moi, c'est malgré tout, je dois l'avouer, c'est cette commu, comme je l'appelle, qui m'a fait le plus bouger, le plus réfléchir, parce que justement, j'avais envie de bien faire et que parfois je faisais pas bien. Et c'est un peu ça aussi que j'évoque dans l'épisode 2, c'est que j'ai beau me dire antiraciste et être persuadé que je suis le meilleur allié, je reste blanc et n'importe quelle personne blanche peut produire du racisme en fait. Moi, je peux faire de la merde, même si je suis déconstruit et que je sais plein de trucs là-dessus. En fait, je peux produire du racisme à tout le monde de ma vie, et c'est important de se le rappeler, même si ça fait vraiment mal au cul.
Ce qui est hyper intéressant, c'est que vous évoluez entre le premier épisode de la première saison et le dernier de la deuxième saison. Vous n'êtes plus le même, mais je parle pas de transformation physique, évidemment. Je parle de votre rapport à la question trans et à la question des discriminations en général. Et puis, en parallèle, il y a un autre personnage qui évolue aussi, qui est celui de votre mère, qui représente aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'elle est votre mère, et puis elle est peut-être un peu tout le monde autour. Comment est-ce que vous décririez sa trajectoire?
En fait, c'est pour ça que je l'ai filmé dans la saison 1, pour être très honnête. J'avais l'espoir qu'elle bouge un peu plus vite que ce qu'elle a bougé. Et donc, j'espérais que les gens, parce que je savais que plein de gens s'identifieraient à elle. Parce qu'elle dit un peu ce que tout le monde pense, avec ses peurs, avec ses réflexions, plus quelqu'un d'intelligent, de bienveillant. Donc, voilà, pour moi, c'était un bon perso, entre guillemets, à filmer, parce que je me disais, à la fin de la saison, elle va me dire mon fils, et on va se prendre dans les bras, et on va avoir une séquence géniale et tout. Cette séquence n'est jamais arrivée. À la fin de la saison, on se parlait plus, c'était la guerre, c'était un petit cauchemar. Et finalement, elle a bougé, on va dire, après. Et puis, du coup, dans la saison 2, c'était chouette de montrer ce chemin qu'elle avait fait. Parce que du coup, moi, ma stratégie politique, parce que je suis toujours en train de faire la politique, c'était que les gens s'attachent à elle, y compris à ses discours que moi, je trouvais transphobe, réac, etc. Et bougerait, du coup, serait coincé, parce qu'en s'attachant, en s'identifiant à elle, quand elle bougerait, il serait obligé de bouger aussi. Bon, du coup, ça a un peu marché, mais voilà. Et en même temps, on voit dans la saison 2 qu'il y a une mère qui, en voyant le réaction de ma mère, s'est questionnée. Et on voit, c'est d'ailleurs dans le même épisode, c'est ma mère et la mère de Mani qui sont arrivées à peu près aux mêmes conclusions, finalement. Donc elles ont bougé. Et je trouvais ça chouette et beau de montrer qu'en effet, tout le monde peut avancer. Et ma mère est quelqu'un d'assez exceptionnel, malgré tout. Ce que je lui reproche tout le temps, c'est quand même super.
Malgré tout ce qu'on reproche à nos mères, de toute façon,
c'est la base de la vie.
C'est un principe de base.
Voilà, c'était important de montrer que et donner de l'espoir. Et c'est vrai qu'il y a aussi des personnes trans qui m'ont écrit en disant, quand je vois que comme ta mère a bougé par rapport à ce qu'elle disait au début de la saison et maintenant, ça me donne de l'espoir. Avec la mienne, c'est chaud et tout. Et donc, ça, pour moi, c'était c'est toujours important pour moi de donner un message d'espoir et de dire aux plus jeunes, ça va aller, ok, c'est dur, mais je vous jure que ça peut aller et qu'on peut être super heureux et heureuse et il faut se battre pour.
Et ça fonctionne assez bien. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble, on va se mettre bien. C'est Djoubaka qui vous caresse l'oreille. Comme tous les vendredis, vous êtes sur France Inter.
Pride is the devil. Think it got a hold on me. Pride is the devil. And left so many RIP. Pride is the devil. Think it got a hold on me. Pride is the devil. Terrified, paranoid, I put you over everything to fill the void. And when you're gone, will I have anything or will I be destroyed? Yeah, too much money to count. What's the amount? 10 of a bounce. I gotta pay a nigga to add it up. Then pay somebody to make sure whatever amount he say, I'm bagging up. Direct, some racks, I'm racking up. Stacking up, you reaching or acting up.
Break it down, weigh it up, not back it up. Make a five of mine, that's regular. Nigga playing with us, that's negative. Go back to start, that's never. I'ma boss my closet leather. Ain't no off days on my schedule. Long as I live, we live forever. Told my twin and shit, get better. These niggas didn't slip, let me ahead them. Got my feet up, I pay 70 bands and assets on the jet. I don't need them, that shit in the past. I'm feeling like, what's next? Got my speed up, foot all on the gas. Just not a CA vet. I can beat them, I believe in me. Just tell me what's the bet. All my pride gone. Had to lose it all, then I got rich. I own five homes. Glad some of this shit starting to make sense. I'm staying hella focused. And I can't forget the bigger picture. I can't even hold you. I didn't have shit, I won't forget it. Will I be destroyed? Come to me with everything, it's starting to get annoying. I'm addicted to promethazine, it's crazy, yeah, I know it. All this money coming in, it drive me crazy, not destroy it. I'll be crazy if I blow it.
Pride is the devil. And I think it got a hold on me. Pride is the devil. And it left so many RIP. Pride is the devil. I think it got a hold on me. Pride is the devil.
J. Cole et Lil Baby, Pride is the Devil. Et vous le savez, vous retrouvez toutes nos références musicales sur franceinter.fr, la page de Passons Genre, pêle poil. C'est la dernière fois de l'année que je le dis comme ça. Pêle poil, à l'endroit où vous pouvez nous podcaster, évidemment.
Passons Genre, Julia Foyce.
Semaine après semaine, ils y ont déposé un vinyle et un clitoris, une boucle d'oreille et un collier, une brosse et des cuissardes et un maillot de l'équipe de France et une figurine de Batman et des Santiago, mais en Python et des demoiselles de Rochefort, un homme révolté de Camus. Et vous, Océan, pour cette dernière contribution de l'année à notre labo du genre, vous mettriez quoi?
Mon objet?
Ouais.
Mon objet, bah, j'avoue, je suis resté assez perso et intime.
Vous l'avez là avec vous?
Ouais, ouais, je l'ai là.
Eh ben, prenez-le.
C'est vrai qu'il faut le voir. Une jolie petite pochette.
Ah, on est sur une pochette très, très flashy,
très fluo, girly. Hein,
très, très girly, très, qui va tellement bien avec mon vernis à ongles. On est
exactement
sur du rose orangé.
Orangé, okay.
Et on l'ouvre et c'est donc un
passeport.
Un.
Bah oui, parce que je trouvais ça important de rappeler que bah, c'est cool de changer ses papiers. Franchement, j'étais hyper content quand j'ai reçu mon nouveau passeport, parce que ça me fait me sentir plus en sécurité quand je suis contrôlé ou quand je prends l'avion, etc. Mais que vraiment, faut enlever, quoi. Faut enlever. MF, tout ça, ça veut rien dire. Il y a d'autres cases. Et plutôt que d'en rajouter pour se retrouver en prison quand on va en Ukraine, parce que c'est sympa. J'ai vu que Joe Biden avait annoncé qu'il allait rajouter intersexe et non-binaire. Ouais. Bon, c'est sympa, c'est chouette. Mais bon, c'est aussi un instrument de contrôle, quoi.
C'est-à-dire
donc, si nous, il y a Marine Le Pen qui passe l'année prochaine et
il faudrait enlever toutes ces cases.
Passeport non-binaire. Moi, je pense qu'il faut enlever toutes ces cases. On n'a pas du tout besoin de ça pour identifier quelqu'un. Et puis qu'après, les gens s'identifient homme, femme, ou ce qui, voilà, ou non binaire ou voilà, ou ni l'un ni l'autre ou les deux, ou qui changent de le lundi et le mardi, ben ça serait voilà, ça empêche personne de s'identifier, ce que je veux dire, homme ou femme. Mais en revanche, sur les papiers, faut vraiment, c'est le vieux monde, ça aussi, c'est fini.
Alors vous allez le prendre quand même avec vous, même si c'est le vieux monde, et partir
parce que je vais pas aller loin sinon
océan.
Parce que je fais le Mariam, mais c'est... non, ben je vais en Sardaigne, ça va, je...
Oh, ça va,
ouais,
ça va, il y a pire,
c'est pas loin.
En attendant, vous pouvez, vous qui nous écoutez, regarder Océan la saison 2 en infiltré, c'est en streaming sur Slash TV. C'est avec vous, très cher Océan, que s'achève cette deuxième saison de Passons Genre, où on se retrouve à la rentrée gorgé de soleil, on l'espère, démasqué. Je vous embrasse et je vous souhaite un très très bel été. Merci vraiment à toute l'équipe de m'avoir accompagné pendant cette saison.